aujourd'hui l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Anicet Leport, monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
C'est la première fois que j'accueille à l'antenne de l'Union rationaliste un ancien ministre. Nous avons plus l'habitude ici d'inviter des chercheurs, des professeurs, des historiens, des hommes et des femmes de science pour nous aider à éclairer rationnellement les différents domaines du savoir et du réel plutôt que des ministres. Mais si je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui, c'est qu'il me semble que vous avez à la fois toutes les armes théoriques, celles de l'ingénieur et du théoricien, et une réelle expérience pratique, celle du politique, pour éclairer la difficile question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, celle du démantèlement du service public. Vous avez en effet, Anicet Leport, été ministre de la fonction publique de 1981 à 1984 dans le gouvernement de Pierre Mauroy. Et vous êtes depuis 85 conseiller d'État. Vous avez écrit bon nombre de rapports, dont plusieurs sur la question de l'égalité femmes-hommes dans la fonction publique. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont deux que sais-je au PUF, l'un sur la citoyenneté, l'autre sur le droit d'asile. Nous avions, il y a 2 mois de cela, abordé avec Frédéric Genevet, qui est historien, la volonté qui semble clairement celle de l'actuel gouvernement de liquider le programme du CNR. C'est dans cette perspective qu'il faut, je crois, continuer à penser cette question du démantèlement du service public qui s'opère de façon certaine et pourtant jamais totalement explicite. Mais si vous le voulez bien, commençons par reprendre les choses historiquement. Et pourriez-vous nous dire quel est, depuis 1946, c'est-à-dire le premier statut démocratique des fonctionnaires, la politique de la France en matière de services publics ?
Si vous le permettez, je remonterai bien avant 1946, oui, jusqu'à Philippe le Bel, car à mon avis, c'est de très loin que nous avons fabriqué une conception du service public qui distingue clairement le public et le privé. Philippe le Bel a décidé un jour de créer le Conseil d'État du roi, pensant que les affaires du royaume ne devaient pas être traitées par les tribunaux ordinaires. Mmh. Donc il a distingué soigneusement ce qui relevait du pouvoir souverain, de l'intérêt général, on appelait à ce moment-là le bien commun, des affaires qui existaient entre les particuliers. Ensuite, cet intérêt général, bien commun, a été porté par des grandes figures de notre histoire, Richelieu, Colbert, les Jacobins, disons même Napoléon, jusqu'à De Gaulle, qui ont incarné physiquement cet intérêt général. Et qui peut s'exprimer, par comparaison notamment avec des conceptions anglo-saxonnes, en disant qu'en France, l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est une catégorie noble, c'est une catégorie éminente. Et précisément parce que c'est ancien et parce que ça fait partie de notre culture historique et politique, s'est créée en France à la fin du 19e siècle une école du service public qui a mis en forme en quelque sorte ce que nous appelons aujourd'hui service public. Avec 3 caractères, pour commencer, une mission d'intérêt général, une personne publique pour mettre en œuvre, répondre à cet intérêt général, et puis un droit et un juge spécifique, le droit et le juge administratif. Donc, distinguant clairement les affaires de l'État, des affaires ou de l'administration, des affaires des particuliers. Et puis, on a mis en avant, on a fabriqué à travers la jurisprudence des principes de fonctionnement, le principe d'égalité, le principe de continuité, le principe d'adaptabilité qui caractérise aujourd'hui ce qu'on reconnaît être un service public. Mais en raison même de son succès, il a couvert un champ de plus en plus hétérogène. Le public s'est mis à faire du privé, le privé s'est mis à faire du public, et le contrat a gagné du terrain par rapport à la loi qui exprimait au départ de manière exclusive l'intérêt général. Et c'est pourquoi il y a ce malentendu, notamment dans le cadre de la construction européenne, qui ne parle jamais de service public, mais de service d'intérêt économique général. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je crois, que le peuple français, le 29 mai 2005, a rejeté le traité constitutionnel parce qu'il ne contenait pas cette idée à laquelle nous sommes très attachés. Alors évidemment, le statut général des fonctionnaires, c'est le cœur du service public qui est lui-même le vecteur de l'intérêt général. Et comme ministre de la fonction publique, j'ai eu le souci, en le réformant, de le fonder sur des principes que je considère comme étant des principes républicains fondamentaux. Le principe d'égalité, qui est basé sur l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à savoir qu'on accède aux emplois publics en fonction des vertus et des talents, et par la voie du concours. Le principe d'indépendance qui veut que le fonctionnaire soit propriétaire de son grade si son emploi est à la disposition de l'administration, c'est ce qu'on appelle le système de la carrière. Et le principe de responsabilité, à savoir que les fonctionnaires ont une responsabilité éminente, celle de rendre compte de leur mission.
Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette remise en question des principes aujourd'hui et que tant de fonctionnaires aient voté sans doute pour l'actuel chef de l'État, que les syndicats n'aient pas fait assez de lutte pour défendre leur statut? Comment se fait-il que la gauche, après les gouvernements de droite, ne soit pas revenue sur les privatisations?
D'abord, je ne suis pas sûr que les fonctionnaires en majorité aient voté pour Nicolas Sarkozy. Je pense même exactement le contraire. Mais ce qui est vrai, c'est que les fonctionnaires, comme l'ensemble de la nation française, se trouvent dans une situation que je caractérise comme une situation de décomposition sociale. Mm-hmm. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que comme l'ensemble de nos concitoyens, il y a une sorte de perte de repères. Alors, je n'ai pas fait personnellement la théorie de cette décomposition sociale, mais j'en vois quand même quelques causes. Je les énumérerai sommairement. Je crois par exemple que l'État-nation n'a plus la même force référentielle qu'autrefois, que la notion de classe est plus complexe, peut-être dénaturée par rapport à ce qu'on entendait par là, que les bouleversements urbains ont modifié les cadres où se forgeait la citoyenneté, que les mœurs ont évolué à grande vitesse, notamment s'agissant du couple, de la famille. Mais la cause principale me semble être l'affaissement, sinon l'effondrement des grandes idéologies qui structurait le débat politique au cours du XXe siècle. Pour les libéraux, je pense à la théorie néoclassique. Pour la social-démocratie, la théorie de l'État-providence. Et pour le mouvement révolutionnaire, communiste, disons, le marxisme. Or, je crois que ces idéologies, même si elles n'ont pas disparu, et même si elles restent signifiantes, n'ont plus la même force qu'elles avaient autrefois. Donc, nous sommes dans une situation de décomposition, et les gens, évidemment, sentent bien qu'il faut faire une rupture avec le passé. Et Nicolas Sarkozy, à tort à mon avis, a illustré cette volonté de rupture. Mais on le voit aujourd'hui, malgré tout, la déception arrive très vite après ce pari que certains gens ont voulu faire. Alors, la gauche aujourd'hui, dans cette situation, me semble elle aussi profondément en crise. Elle a perdu les repères que j'indiquais et elle s'est coulée dans les règles libérales, l'économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée. C'est quand même quelque chose de tout à fait surprenant. J'allais dire presque scandaleux, que la gauche est privatisée plus que la droite.
Mais bien sûr.
Et en tant que ministre de la fonction publique, lorsque la droite est revenue au pouvoir, elle a porté atteinte au statut des général des fonctionnaires, elle a porté atteinte au service public. Et quand la gauche ensuite lui a succédé, je pense notamment à la période 88-93, elle n'est pas revenue sur les décisions prises par la droite.
Absolument. Et,
alors, je crois que c'est quand même un sujet de méditation important pour la suite.
Hein. Vous pourriez nous donner les exemples de ce qui s'est passé justement autour de la loi Gallon, etc.
Bien, par exemple, vous savez, bon, je suis à l'initiative du regroupement de tous les agents publics, de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, dans un grand ensemble qu'on appelle le statut général des fonctionnaires. Mmh. On est passé ainsi de 2 millions de fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui sont régis par un statut, à 5 millions. Alors, il est bien évident que les forces du marché, les forces libérales ne peuvent pas s'accommoder que presque un quart de la population active échappe à la loi du marché, échappe au contrat. Et c'est pour ça qu'ils veulent s'attaquer à la chose. La loi Gallant, alors que j'avais uniformisé le statut des fonctionnaires, qu'ils soient de l'État ou territorial, eh bien...
C'était
en 87, la loi Gallant.
D'accord.
A ramené les fonctionnaires territoriaux vers à mi-chemin entre ce que j'en avais avaient fait et leur situation ancienne. Ce qui fait qu'ils sont, pour être simple, ils sont davantage que je ne les avais fait dans la main des élus, c'est-à-dire menacés par un certain clientélisme, alors que les règles statutaires fixent des règles qui sont valables pour tout le monde et définies par la loi.
Les Français sont attachés à ce qu'était ou ce qu'est encore le service public. Je pense par exemple à la poste, au secteur bancaire, au secteur de l'eau, à l'éducation nationale, institutions hospitalières et même aux entreprises publiques. Mais justement, le mouvement actuel, c'est de se sentir submergé par cette vague libérale et de ne pas savoir quoi proposer, quelle réforme proposer ou quelle lutte engager pour s'opposer à la privatisation à terme de tout le secteur public.
Moi, je crois qu'il faut aller chercher une réflexion plus profonde, si vous voulez. Je crois d'abord que les Français sont en attente et qu'ils... Je fais beaucoup de réunions et je me rends compte que c'est un peuple politique et qui attend des solutions, qui a envie de débattre d'idées, pas qu'on en dise. Mm-hmm. Mais il faut bien voir où nous sommes. Hein. C'est René Raymond qui a caractérisé le XXe siècle comme un siècle prométhéen, où l'homme a pensé que par sa seule volonté, il pouvait intervenir sur la nature, sur l'organisation sociale d'une manière assez exclusive. Et c'est vrai que ça a débouché sur des comportements totalitaires. Mm-hmm. Et donc, il y a eu des fautes, des erreurs, et des erreurs extrêmement graves. Alors, moi, je crois qu'il faut repartir de là. Non pas pour rejeter cette expérience, mais pour en tirer les leçons. C'est une situation assez dangereuse, parce que, alors qu'on pensait que l'histoire était écrite au XXe siècle, là, on est dans un monde aléatoire, et effectivement, on est un petit peu perdu. J'ai écrit un livre en 94, que j'ai intitulé « Pendant la mue, le serpent est aveugle ». Mm-hmm. C'est une métaphore qui, à mon avis, est assez pertinente, car elle montre à la fois que dans les périodes de transition, de décomposition, celle dont je parle, si vous voulez, eh bien, on est faible et on est aveugle, on ne voit pas clair, on est en désarroi, en quelque sorte. Mais c'est la condition pour grandir, c'est la condition pour passer à un stade qui sera... plus riche, plus important. Alors il faut en avoir conscience, et quand on en a conscience, à mon avis, on est moins angoissé. Alors cela dit, effectivement, dans une situation comme celle-là, des monstres peuvent survenir. Mais moi, je crois qu'il faut voir les choses en positif. Je crois qu'au contraire, on est à un moment tout à fait privilégié de l'histoire du genre humain, où on a le sentiment qu'on ne peut qu'avoir qu'un seul destin sur l'ensemble de la planète. Il y a une unité de destin nécessaire du genre humain. Et que on ne peut plus exploiter la planète d'une manière extensive, qu'il faut s'intéresser à une gestion commune, à un en commun, si vous voulez, du monde moderne. C'est pourquoi je pense que notre époque pourrait, et devrait, et je l'espère, sera l'époque de l'âge d'or du service public, de la mise en commun. Et c'est pourquoi il faut être optimiste devant cette perspective, même si on n'y voit pas très clair.
Très bien. Alors, pour faire accéder à cet âge d'or, au fond, il nous faut des outils théoriques pour penser ou opposer une vision peut-être non libérale du monde. Et c'est cela la tâche, non ? C'est à cela qu'il faut s'atteler au lieu de s'enfermer dans une logique de la personnification de la politique, tant à droite qu'à gauche.
Personnellement, hein, je n'ai pas la solution à ce problème qui est si difficile. Mais je pense, et en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire moi depuis une dizaine d'années, je crois qu'il faut travailler dans deux directions. La première, c'est essayer de mieux comprendre cette décomposition sociale, mm-hmm. mieux comprendre les contradictions qui sont à l'œuvre. À la fois pour savoir de quel côté de la contradiction il faut se mettre, hein, et puis aussi pour conjurer des monstres dont je parlais tout à l'heure et qui peuvent survenir, car on est un petit peu dans le flou hein, de notre avenir. Donc il faut s'intéresser à cela et le faire avec une grande lucidité. La deuxième voie, c'est de se dire qu'est-ce que les générations antérieures nous ont apporté ? Quel est l'héritage ? Et c'est pourquoi j'ai travaillé sur la citoyenneté, car il me semble que la citoyenneté, c'est le concept qui peut recueillir cet héritage et dont nous devons faire un investissement, un premier investissement. Alors à partir de là, je crois que l'heure n'est pas au programme, l'heure n'est pas au projet, même je crois que l'heure n'est pas encore à une théorisation des instruments qui nous permettront d'ouvrir les chemins de l'avenir. Je crois qu'il faut surtout se demander sur quel chantier il faut travailler pour faire œuvre utile et créer les premières bases d'une refondation de la pensée progressiste. Pour moi, c'est par exemple, en premier lieu, bien entendu, le service public, mais aussi, condition indispensable, la propriété publique, que j'appelle appropriation sociale pour en étendre la signification, mais aussi les institutions, mais aussi l'attitude vis-à-vis de l'étranger, l'immigration et l'asile, mais encore une conception qui va au-delà de l'internationalisme que nous avions en tête il y a des décennies, pour penser une mondialisation qui ne soit pas seulement celle du capital, mais qui soit une mondialisation progressiste.
Très bien. J'ai coutume, Anicet Le Pors, de demander à l'issue de chacune de nos émissions, pourquoi êtes-vous rationaliste ? Alors je vous la pose cette question, Anicet Le Pors, pourquoi êtes-vous rationaliste ?
Pour plusieurs raisons, j'en vois trois, si vous voulez. La première, c'est que je ne suis pas de ceux qui condamnent le passé, si vous voulez, qui considèrent que, il y a eu une aventure communiste, et puis maintenant, le communisme est à jeter aux poubelles de l'histoire. Non, je crois que il faut analyser ce qui s'est passé, considérer que c'est, peut-être que le mot n'est pas approprié, mais une sorte de brouillon de la volonté humaine d'agir sur les choses et de développer entre les gens des relations qui soient riches et qui nous avancent dans le progrès du genre humain. La deuxième raison, c'est que, parce que je crois que la rationalité est menacée aujourd'hui par ce pouvoir. J'en veux pour preuve, si vous voulez, cette démarche du président de la République qui réintroduit le fait religieux dans la sphère publique, mais aussi parce que je suis un ancien économiste et un fonctionnaire, parce que je vois que une période très courte, on a supprimé des organismes qui étaient l'expression de cette volonté de rationalité, même s'ils n'ont pas toujours servi à cela. Le Commissariat général au plan, la direction de la prévision du ministère des Finances, le Conseil national d'évaluation, tout cela a été supprimé au cours de l'année dernière. Peut-être qu'on ne s'en est pas rendu compte. Donc je crois qu'il faut se défendre contre cette entreprise obscurantiste. Et la troisième raison, c'est parce que je pense fondamentalement que ça n'est pas la transcendance, ça n'est pas un état naturel, ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas le hasard qui détermine les règles de l'organisation sociale et de la morale sociale. Ce sont les citoyennes et les citoyens, et c'est la laïcité qui le leur permet.
Anicet Le Pors, je vous remercie. Le colloque de l'Union rationaliste Science et laïcité aura lieu le mercredi 9 avril au Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, dans la salle 2. Il commencera le matin à 9h30. Je signale que l'actuel numéro des cahiers rationalistes, le numéro 593, comporte un article de Jean Bobéro sur précisément l'attitude de Nicolas Sarkozy avec le discours de Latran. Je remercie Brigitte Mazire et Philippe Mercher qui ont rendu possible cette émission.